Le journal Loïc Barrière. Il y a 2 ans, la double explosion dans le port de Beyrouth faisait plus de 224 morts et 7000 blessés, selon un dernier bilan. Dans un entretien à Lorient Le Jour, Emmanuel Macron appelle à la reprise de l'enquête. Une enquête bloquée depuis des mois. Nous ferons le point avec la journaliste Maya Kadra. Entretien également avec le réalisateur Philippe Audidor. Il est retourné dans le quartier d'Achrafieh, l'un des quartiers dévastés le 4 août 2020. Et il a réalisé un documentaire intitulé « Beyrouth face aux monstres ». La réforme de l'immigration voulue par Gérald Darmanin a été reportée. Le ministre de l'Intérieur annonce qu'il y aura d'abord une phase de concertation, puis un débat au Parlement. La Cour européenne des droits de l'homme rejette la demande de suspension de la mesure d'expulsion visant Hassan Iqiyoussen vers le Maroc. Enfin, à Montargis, un homme placé en garde à vue après la mort de sa femme enceinte de 8 mois. Il y a 2 ans, une double explosion dans le port de Beyrouth faisait 224 morts et 7000 blessés, dont 150 personnes devenues handicapées, selon les derniers chiffres fournis par l'Association des familles des victimes. À l'occasion de ce 2e anniversaire, plusieurs dirigeants libanais ont réclamé la justice pour les victimes et dans un entretien à Lorient Le Jour, Emmanuel Macron a demandé la reprise de l'enquête en toute indépendance. L'enquête sur cette catastrophe est suspendue depuis des mois. Je vous propose de faire le point avec la journaliste Maya Kadra.
Pour parler de l'enquête, il conviendrait peut-être que je fasse un peu la lumière sur la chronologie de tous les obstacles en fait qui ont fait que l'enquête aujourd'hui, elle est suspendue. Alors, il y avait le juge d'instruction, Tarek Bitar, qui a été chargé d'enquêter sur l'explosion du port de Beyrouth. Cependant, ce juge d'instruction a commencé en fait à émettre des mandats d'arrestation contre d'anciens ministres et des ministres actuels qui appartiennent au tandem chiite, c'est-à-dire Amal et Hezbollah. Ceci a réveillé un peu la colère de la rue chiite qui est partisane du Hezbollah et du parti Amal aussi. Et il y a eu des événements qui ressemblaient à la guerre civile en octobre 2021 pour demander l'arrêt de cette enquête et pour demander aussi que Tarek Bitar soit évincé. S'en est suivi plusieurs autres événements politiques majeurs pour suspendre cette enquête et je vais les énumérer les uns après les autres. En décembre 2021, on avait une échéance, c'était celle des nominations judiciaires, c'est-à-dire nommer les magistrats et nommer aussi surtout les magistrats à la Cour de cassation. Ceci a été suspendu par le ministre des Finances, Youssef Khalil, en décembre 2021 parce que ce dernier n'a pas signé. Il a refusé d'apposer sa signature sur le décret de désignation, bien de nomination, de ses magistrats à la Cour de cassation. Et donc, de fait, le juge d'instruction Tarek Bitar, en effet, s'est vu suspendre un peu sa mission d'enquêter sur l'explosion du port. Et donc, on ne peut pas espérer une enquête nationale sur le plan libanais sur cette explosion, sachant que l'État libanais, il est complice des bourreaux, des criminels un peu qui ont fait la sourde oreille aux différentes mises en garde énoncées par les hauts fonctionnaires du port qui exprimaient leur inquiétude face au stockage de quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium à l'entrepôt numéro 12. Et donc là, il y a une responsabilité criminelle de la part de ministres, de la part de députés. Et le chef du Parlement, Nabil Berri, il a refusé de lever l'immunité sur quelques députés qui sont impliqués également dans ce crime contre le peuple libanais et contre surtout la capitale du Liban, Beyrouth. Et donc aujourd'hui, on en est à un blocage total de l'enquête. Et ce qui, enfin le lumignon d'espoir qui reste pour les Libanais, c'est de demander une enquête internationale sous la houlette des Nations Unies. Alors il y a eu des initiatives issues de blocs parlementaires, notamment celui de la République forte, et c'était au lendemain de l'explosion, le 17 août 2020. Il y a eu une lettre qui a été adressée à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Sauf que ce dernier n'a pas la jurisprudence qui lui permet de prendre des décisions quand il s'agit de requêtes non gouvernementales. Sachant que ce n'était pas le gouvernement libanais qui a envoyé cette lettre demandant une enquête internationale, c'était plutôt un bloc parlementaire. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, n'a rien pu faire. Et donc la toute dernière initiative présentée par ce même bloc et ses alliés était une lettre donc adressée à l'Organisation des droits de l'homme qui est à Genève. Et cette organisation qui est formée de 47 pays membres pourrait à ce moment-là peut-être demander la formation d'une commission d'établissement des faits. C'est un peu une, comment dirais-je, une expression plus adoucie pour ne pas faire face à des clashs au Liban, parce qu'enquête internationale, ça rappelle un peu le tribunal spécial pour le Liban après l'assassinat de l'ancien premier ministre Rafik Hariri et toutes les tensions que ça a générées. Donc aujourd'hui, la principale revendication portée par ce bloc parlementaire, c'est une commission de d'établissement des faits afin que l'on puisse élucider en fait dans quelles conditions cette explosion a eu lieu et afin surtout de rendre des comptes surtout aux familles des victimes. Plus de 224 victimes, 300 000 déplacés, dont des personnes âgées et très démunies, et plus de 7 000 blessés. C'est une des pires catastrophes de notre siècle actuel, de notre époque moderne, en fait. C'est une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire de l'humanité après Hiroshima et Nagasaki. Et donc là, on est face vraiment à une injustice, à une frustration grandissante de la part du peuple libanais, avec une paralysie au niveau des institutions libanaises, au niveau du pouvoir judiciaire, une paralysie aussi internationale, et je me permets de la signaler sur les ondes de votre radio, de la part de la communauté internationale qui jusqu'aujourd'hui promet pour le Liban, promet de rendre justice, promet d'enquêter, etc. Mais ça reste au niveau des discours et on ne passe jamais à l'acte.
Quand Emmanuel Macron demande dans L'Orient le Jour la reprise d'une enquête de manière indépendante, pour vous, cela ne va pas assez loin?
Cela ne va pas assez loin et le président français a fait beaucoup d'efforts pour le Liban. L'initiative française, c'était une initiative de sortie de crise, mais il a accusé en septembre 2019, et je me souviens très bien de cette conférence de presse qu'il a tenue à l'Élysée. Il a accusé le tandem chiite de torpiller l'initiative française, parce que le tandem chiite s'accrochait à quelques portefeuilles ministériels, dont le ministère des Finances. Et je rappelle que Youssef Khalil, le ministre des Finances qui a bloqué les nominations judiciaires, est un ministre du tandem chiite. Et donc on voit directement les conséquences de ce que le président français Emmanuel Macron a déploré déjà en septembre 2019. Mais aujourd'hui, en appelant à une enquête intègre et indépendante, c'est un peu de ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking. Ce n'est pas en appelant à effectuer une enquête intègre et indépendante qu'on va aboutir à rétablir la vérité autour de cet événement tragique et catastrophique aussi. C'est vraiment en retroussant les manches sur le plan international, c'est en prenant des initiatives concrètes, que la justice sera rendue au Liban, à Beyrouth et aux familles des victimes et aux milliers des blessés. Parce que sinon, les discours, il nous en manque pas de discours au Liban. Il y en a beaucoup, beaucoup de discours, beaucoup d'encre à couler depuis l'explosion du port de Beyrouth, depuis la Saoura, depuis la crise financière, économique et alimentaire aujourd'hui au Liban. On a un début de famine même au Liban, mais jamais on a des actions politiques. Je ne parle pas des actions sociales au Liban, parce que la France, comme tant d'autres pays, aide le Liban et envoie des aides scolaires, envoie des aides pour les hôpitaux, mais il n'y a pas d'action politique et de décision, je dirais, internationale pour que le Liban sorte de son gouffre.
La journaliste Maya Kadra, 2 ans après, le traumatisme est toujours présent chez les familles des victimes et les personnes blessées ou sinistrées. Le réalisateur Philippe Audidor est revenu dans son quartier d'Achrafieh pour interroger des voisins sur ce qu'ils ont vécu le 4 août 2020. Aujourd'hui, il présente son documentaire intitulé « Face aux monstres ». On l'écoute.
Pour le coup, moi j'étais en France à ce moment-là. Et oui, ça a été assez particulier comme moment parce qu'on a on a commencé à recevoir des informations sur WhatsApp, etc., plein de messages. Et au début, j'ai pas compris l'ampleur en fait de l'explosion. Donc au début, j'ai vu que c'était au port et je me suis dit bon, bah, c'est une bombe. J'imagine que c'est pas en plein centre résidentiel. Ça va aller vraiment sur le port. Et donc j'étais rassuré. Et ensuite, on commence à voir les images. Et là, on voit l'ampleur de cette explosion et on réalise que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu imaginer. Et là, vraiment, c'était cette panique depuis l'étranger, en plus de pas pouvoir joindre sur place tous les proches, donc de pas savoir comment eux, ils allaient, et de vraiment être attaché à son ordinateur pour essayer de trouver n'importe quelle petite information. Et c'était, c'est comme ça que moi, en tout cas, je l'ai vécu personnellement. J'ai l'impression que quelque part, vu que voilà, avec cette révolution qui avait commencé, on parlait déjà de la corruption des politiciens, de leur inaptitude à diriger, et là, cette explosion qui arrive pendant cette révolution, je pense qu'elle a malheureusement mais exemplifié de façon presque parfaite leur inaptitude à diriger, et vraiment aussi leur manque de respect, de compassion, de intérêt par rapport à leurs propres citoyens, parce que suite à l'explosion, il n'y a eu quasiment aucune aide gouvernementale pour venir aider les gens. Donc pour les Libanais, je pense que ça a été une confirmation voilà, de ce pourquoi ils étaient en train de faire la révolution. Ensuite, bien sûr, sur le coup, ça a traumatisé plein de Libanais, plein de Beyrouthains particulièrement, et ça a créé voilà cette sorte de trauma collectif. Ça c'est malheureusement quelque chose que tout le monde partage maintenant.
Alors vous avez réalisé un film sur cette double explosion, un documentaire intitulé Beyrouth face aux monstres. Comment l'avez-vous conçu ?
Alors ça s'est fait de façon pas réfléchie finalement, parce que j'ai été donc suite à l'explosion, j'ai été sur place pour aider ma famille qui c'est ma mère qui habite sur place à Beyrouth, pas loin du port justement. Donc d'abord j'étais sur place juste pour aider à un niveau personnel. Et bien sûr, j'ai commencé à parler à mes amis, aux proches et aux gens du quartier, qui est le quartier de Achrafieh. Et voilà, je commençais à entendre toutes leurs histoires, comment eux avaient vécu cette explosion. Et quand je rentre à Paris, suite à l'explosion, je retrouve tout d'un coup plein de films. En fait, j'avais filmé la ville, j'avais filmé le quartier, parce que j'adore Beyrouth, et je l'avais filmé avant la révolution, en 2019. Et je retrouve toutes ces images du Beyrouth d'avant et du port et du hangar où se situe où le nitrate était sans qu'on le sache. Et donc là, c'était très très fort de revoir ces images à ce moment-là. Et donc quand je suis reparti à Beyrouth quelques mois après, j'en ai profité cette fois pour vraiment enregistrer les gens que je croisais en leur demandant voilà de partager leur histoire. Et à ce moment-là, j'ai accumulé plusieurs heures d'enregistrement. Et peu à peu, je me suis dit que voilà, j'allais créer ce documentaire où j'avais les témoignages des gens qui m'expliquaient comment eux vivaient l'après-coup de l'explosion, et accompagné des images du Beyrouth d'avant. Et quand j'étais de retour à la maison, par exemple, personnellement, je n'étais pas sur place au moment de l'explosion, mais juste de me dire, bah voilà, moi, ma chambre à coucher est là, je regarde par la fenêtre et je sais que le voisin en face, là, lui, est décédé, ça nous confronte un peu à l'injustice de la vie, en fait. Et finalement, avec cette injustice, on veut en faire quelque chose, voilà, rendre hommage et pour ces gens qui sont décédés, hommage et crier à leur injustice, parce que si nous ou ceux qui ont survécu, eux, enfin, ne crient pas à l'injustice, qui d'autre va le faire pour ceux qui sont décédés?
Le réalisateur Philippe Audidor. Et puis 2 ans après l'explosion, une seconde partie des silos à grains du port de Beyrouth s'est écroulée ce jeudi, ce qui a créé un nuage de fumée dans la capitale libanaise. Gérald Darmanin annonce le report du projet de loi sur l'immigration, un texte qui devait être examiné au Sénat en octobre. Le ministre de l'Intérieur explique au Figaro qu'une concertation sera d'abord organisée à la rentrée, place Beauvau, avec les partis politiques, les partenaires sociaux, les associations et les représentants de la société civile. Il y aura ensuite un grand débat sur l'immigration au Parlement avant la présentation du projet de loi. Gérald Darmanin souhaite une réforme de l'asile, mais aussi une intégration plus exigeante des étrangers. Il promet par ailleurs de lutter davantage contre les délinquants étrangers. L'avocate de Hassan Iquissen avait demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de suspendre son expulsion vers le Maroc, mais la Cour a rejeté cette demande. L'expulsion de cet imam qui vit dans le nord de la France a été annoncée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin il y a quelques jours. Le prédicateur est accusé par les autorités d'avoir lancé des appels à la haine et à la violence, visant notamment la communauté juive. Une femme enceinte de 8 mois a été retrouvée inconsciente dans la nuit de mardi à mercredi à Montargis dans le Loiret. Elle est décédée à l'hôpital, son corps présentait de nombreuses fractures. Le bébé qu'elle portait n'a pas pu être sauvé. Son conjoint, âgé de 35 ans, a été placé en garde à vue. Il est suspecté d'avoir tué sa compagne. Selon le parquet, il était déjà connu de la justice pour des délits routiers, mais pas pour des infractions violentes. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.